Donc je ferai une brève présentation de l'histoire de ces jouets arrivés au Musée des Arts et Métiers, en m'appuyant essentiellement sur les correspondances contenues dans le dossier d'œuvre, les archives du conservatoire et puis le livre de Frédéric Marchand sur les automates jouets Martin et l'article que Clive Lamming avait publié dans la revue du musée en 1997. À Marianne Leperatier ensuite de détailler la question des mécanismes, des matériaux évidemment des opérations qu'elle a réalisées sur ces jouets. Le 24 septembre 1908, la direction de l'enseignement technique, une direction du ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de tutelle du Conservatoire des Arts et Métiers, prend contact avec le directeur Louis Bousquet. Monsieur Martin, industriel, désire remettre au conservatoire une vitrine qui contient les principaux modèles de petits automates créés par lui depuis 30 ans. C'est l'origine de cette collection qui fait du Musée des Arts et Métiers, où les jouets sont anecdotiques, même les jouets techniques, le détenteur d'une très belle collection. La réponse au ministre du Commerce ne tarde pas, indiquant que le conseil d'administration donnera certainement son approbation à cet enrichissement. Les membres du conseil en sont avisés lors d'une réunion en novembre 1908 et le don est formellement accepté à la fin de la séance du 24 décembre 1908. Donc, le dossier d'œuvre des jouets comporte plusieurs courriers, la marque d'échange direct entre Fernand Martin et le conservateur des collections, Joseph Éloy. Les jouets arrivent dans deux coffres noirs qui sont encore aujourd'hui conservés aux réserves. Je vous en montre un. Et Martin donc fournit la vitrine de présentation et même le cartel des jouets. On sait enfin que la vitrine des bonhommes Martin est installée en salle 20 au rez-de-chaussée du bâtiment, dans une salle qui était alors consacrée à l'astronomie et qui est aujourd'hui devenue la salle de conférence du musée. Plus intéressant est un courrier de Fernand Martin du 21 avril 1909, dans lequel il annonce l'envoi de modèles de jouets coupés en deux pour permettre l'étude des mécanismes. Et ceci rejoint bien le rôle pédagogique de nombreux modèles de la collection du Musée des Arts et Métiers à l'époque. Cependant, on ne sait pas si c'est le musée qui a choisi les modèles ou si c'est Fernand Martin qui a suggéré les plus intéressants pour ce genre de chirurgie. 7 coupes sont réalisées, les courageux sieurs de Lyon, le CAB, dont je vous montre une image, ici vous l'avez en entier, donc le jouet, et puis ici sa coupe. Voilà, l'autruche, l'éminente avocat, le pompier, le petit pianiste et le culbuteur. À chaque fois, donc, on met en valeur le mécanisme. Le musée conserve aujourd'hui 106 jouets Martin. Alors, sur Martin lui-même, quelques indications biographiques. Il est né à Amiens en 1849 et il meurt à Paris en 1919. C'est l'enfant d'une famille modeste qui ne fait pas d'études, il obtient juste son certificat d'études. Il devient fabricant de fleurs artificielles et atteint une bonne notoriété dans ce domaine typique des articles de Paris. Il est marié en 1872, il n'aura qu'un seul garçon et il s'adonne avec passion à l'horticulture ainsi qu'au bricolage, on va dire, puisqu'il a, on le sait, dans sa maison de Fontenay-aux-Roses, un large atelier où il continue à développer des petits objets mécaniques, une passion qu'il a depuis son enfance. En 1878, il dépose un premier brevet pour un poisson nageur et dès 1880, il installe boulevard de Ménilmontant, dans l'Est parisien, une fabrique de jouets de fer blanc. À partir de 1885, il est de toutes les expositions et collectionne les récompenses. D'ailleurs, son papier en tête en fait fièrement la preuve. Il connaîtra donc une grande réussite. Alors, on a en tête sans doute l'image des jouets Martin vendus sur les trottoirs parisiens par les camelots, mais en fait Martin dispose d'un véritable système de diffusion de sa production par le biais d'un comptoir de vente et par les grands magasins également, non seulement en France mais dans toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis. En 1892, il déménage de numéro plus bas sur le boulevard de Ménilmontant et organise une nouvelle fabrique où et le système de production à la chaîne est développé. Ce sont de nombreuses femmes qui travaillent aussi bien à la découpe de tôle, au montage de pièces, qu'à l'habillage ou à la peinture des petits automates. En 1900, cette usine parisienne livre 800 000 jouets mécaniques par an. En 1912, il se retire dans le Midi avec son fils malade et vend son entreprise à Georges Flersheim. Il meurt en 1919. La fabrication des jouets Martin continue avec Flersheim, puis dès 1919 avec Victor Bonnet, qui était grossiste en jouets et un ami intime de Martin. Cette entreprise, Victor Bonnet, qui a diffusé des jouets sous la marque VB, a subsisté jusqu'en 1965 avec des fortunes diverses et des périodes assez longues d'interruption de production. Alors, outre le système bien rodé de production et de vente, la réussite de Martin tient à sa série des Bonhommes Martin, une série d'instantanés de la vie parisienne de la fin du XIXe siècle. À l'image antérieure, donc des types sociaux de Daumier ou de Gavarni, comme le rappelle le catalogue de l'exposition Jouets, et qui tiennent aussi à sa façon de croquer l'actualité. Alors, en témoignent des jouets qui illustrent les attractions de l'exposition universelle de 1889. Pointer. En fait, vous avez le pouce-pouce anamite de l'exposition de 1889 qui est le deuxième petit objet sur votre gauche. Les pompiers, la charrette anglaise et puis l'attelage flamand où un chien tire une petite carriole remplie de bidons de lait. Sur cette autre maquette, la famille vélo par exemple à l'extrémité droite, et puis d'autres modèles, le diabolo, le coiffeur, le boucher, donc de ces petits types parisiens. Et sur cette dernière carte postale, il y a la portière, le petit décrotteur qui a été un de ces modèles les plus diffusés, une marchande des quatre saisons et un pêcheur. Un autre exemple qui était illustré dans le catalogue de l'exposition des jouets est un modèle connu sous le nom de l'intrépide jockey, qu'il rebaptise dès l'été 1911 en voleur de Joconde, puisqu'il adapte sur le modèle du petit garçon qui s'enfuit sur un petit cheval joué, une toute petite reproduction du célèbre tableau qui avait été volé par un peintre en bâtiment italien, et qui est un commentaire direct de ce fait divers célèbre. Et puis, un dernier élément qui est présent dans le dossier d'œuvre, c'est toute une série de courriers qui sont assez savoureux, puisqu'en mai 1911, après avoir découvert la vitrine de jouets dit Bonhomme Martin lors d'une visite au musée, un certain Boucher écrit une lettre à la direction du conservatoire en se plaignant de l'appellation erronée de celle-ci et protestant de ses droits lésés par Martin. Celui-ci aurait volé, aurait offert des sommes dérisoires aux véritables inventeurs des mécanismes. Et je vous cite quelques extraits de sa lettre. « Monsieur le directeur, on vous a trompé indignement en vous disant que le nommé Martin était l'inventeur de ces bonhommes automates. J'ai compris que vous aviez jugé presque à sa valeur cette vitrine en la plaçant dans la salle de l'astronomie, car c'était le fait d'escroc de haut vol. J'ai l'espoir de croire, monsieur le directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, que vous ne laisserez pas cette suspicion sur votre musée qui, par ses faits, n'aurait aucune valeur morale. » Alors il semble à ce moment-là, mais les minutes des courriers de réponse n'ont pas été conservées, que le conservatoire ait lancé des recherches auprès des petits inventeurs ayant cédé leurs inventions ou tout au moins favorisé leurs revendications. Le dénommé Boucher, mais d'autres mécaniciens comme Noguier, Gosselin, Fernand Jeannelet ou Paulet se regroupent auprès d'un dénommé Marker, inventeur lui aussi, et envoient au conservatoire des précisions et des éléments donc, sur les modèles qu'ils avaient déposés, vendus ou cédés à Martin. Une lettre de Gosselin à Marquet, datée de juillet 1911, l'exprime en ces termes. « Cette détermination des arts et métiers me fait bien plaisir. Elle montre que le nom des petits inventeurs ne sont pas oubliés. » Le 2 octobre 1911, Fernand Martin répond au conservatoire en joignant une liste des modèles qu'il a donnés 2 ans plus tôt, annotée de sa main. Celle-ci détaille les brevets des inventeurs et la date d'achat du modèle. Elle précise le libellé du nouveau cartel et pour certains demande à ce qu'il soit retiré de la vitrine. Martin estime en effet que si le brevet est bien d'un autre, il a apporté des modifications substantielles au jouet et ne veut pas qu'il soit présenté avec le nom de son inventeur. Il préfère donc demander au CNAM de les retirer de la vitrine des bonhommes Martin. Et il envoie par ailleurs un document qui aurait été très intéressant pour nous de consulter, qui est le contrat type de cession de droit, qui malheureusement n'a pas été conservé, mais lui a été renvoyé donc, par le secrétariat du conservatoire. Alors la fortune de ces jouets a été vraiment importante. Ils ont été extrêmement populaires. Ils ont été empruntés pour de très nombreuses expositions, comme en témoignent là aussi les traces laissées dans le dossier d'œuvre, dans les années 30, dans les années 50, 60, 70, aussi bien pour des manifestations sur le jouet, mais aussi pour illustrer un métier ou la vie parisienne plus généralement de cette fin du XIXe siècle. Jusqu'à la rénovation du musée et sa rouverture en 2000, ils étaient exposés avec la collection d'automates et de musique mécanique du musée. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'ils sont visibles, au moins pour une sélection d'entre eux, dans ce que nous appelons le théâtre des automates. Vous avez sur la droite une image du public qui se presse devant une vitrine, voilà, avec un certain nombre de ces bonhommes Martin. Et dans ce théâtre des automates a lieu trois fois par mois un petit spectacle, au moins une animation, dans lequel mes collègues mettent en mouvement un certain nombre de pièces exposées, mais rarement les jouets Martin, car ils sont quand même fragiles. Et je laisserai donc Marielle Loperatia développer ces éléments.
Bonjour, donc je suis intervenue sur une sélection de jouets Martin qui devait être prêtée pour l'exposition sur les jouets. Ce que je vous présente là est une série de remarques et de conclusions que j'ai pu faire lors du traitement de ces jouets. Les objectifs de l'intervention étaient clairs, c'était une mise en conservation sans mise en état de fonctionnement pour présentation dans le cadre de l'exposition. Une vingtaine de jouets avaient été retenus. Et donc là, si vous voulez, je vais vous faire un petit peu une synthèse de tout ce que j'ai pu remarquer. Donc ces jouets, comme ce qu'a présenté Alexandra tout à l'heure et comme d'autres l'ont fait, ce sont des objets composites. On a de nombreux matériaux. Les métaux se retrouvent essentiellement pour ce qui est de la structure même du jouet et le mécanisme de mise en mouvement. Les mécanismes sont très variés. Si Martin, il y a énormément de brevets qui ont été déposés dessus. Si vous avez regardé attentivement le courrier que montrait Anne-Laure Carré, sur l'entête, il y avait marqué 127 brevets. Donc vous imaginez la quantité que ça représentait. Au niveau des mécanismes, donc, ils sont très variés. Au niveau des métaux utilisés aussi, du fer, mais aussi du cuivre, puisque certains engrenages à pignon sont soit en cuivre, soit en laiton, avec un axe en acier, des roues dentées en fer blanc, on a des vilebrequins, des bielles, des crochets régulateurs, des élastiques aussi avaient été installés dans les premiers modèles, mais à cause du mauvais vieillissement de ce matériau, ils ont été remplacés par la suite par des ressorts en spirale pour animer les moteurs des jouets. Les membres étaient actionnés par un vilebrequin intérieur, souvent, et avec une biellette, ou dans le cas de... montrer des mouvements un petit peu plus saccadés par des cames et des roues à rochets qui étaient directement inspirées des échappements d'horlogerie. Donc on voit une très grande technicité derrière ces mécanismes qui semblent à première vue, comme vous le voyez là sur le jouet de droite, qui est en fait la vue d'en dessous du shérif, donc des mécanismes assez techniques. D'autres matériaux, pour ce qui est des accessoires, très variés, des textiles, comme le pochard que vous avez au milieu avec sa chemise et son pantalon, d'autres matériaux organiques, de la feutrine, du papier, là le petit pianiste que vous avez, et puis quelques éléments en plastique, bon, bah, y avait les caoutchoucs, et éventuellement d'autres éléments, le plomb aussi, les pieds des automates étaient souvent fabriqués avec un rajout de plomb pour les lester et leur donner une bonne verticalité. Présence de nombreux matériaux aussi pour ce qui est des revêtements, donc ces objets étaient peints pour la plupart. Nous n'avons pas fait d'analyse précise concernant ces revêtements peints. Néanmoins, on peut constater qu'on a affaire à 5 ou 6 couleurs, je dirais assez standardisées, que l'on retrouve, un bleu, un vert, un blanc, un rouge, un beige, et le noir qui est souvent couleur de fond pour l'intérieur des pièces et pour quelques éléments rapportés. Il y a aussi des vernis. Alors, c'est l'autruche que vous avez sur votre droite. C'est le métal était recouvert de ce vernis jaune, lacunaire maintenant, et peut-être même teinté. Et puis, d'autres éléments, comme des impressions sur métal, le détail là, du shérif que vous avez sur la droite. Les assemblages pour ces jouets sont aussi très variés. Nous avons des soudures, d'autres systèmes d'attache mécanique, comme des rivets, des agrafes parisiennes. Donc, une grande multiplicité. Alors, peut-être que je peux vous montrer. Ici, on ne les voit pas très bien, vous voyez ici les crochets. Là, tous ces éléments-là étaient soudés, d'autres systèmes d'accroche. Là aussi, on les voit. Donc, une grande variété, multiplicité au niveau des techniques mises en œuvre. Alors, quelles sont les altérations récurrentes que l'on a pu voir sur ces objets, sur ces jouets, pardon. Au niveau des métaux, des problèmes d'interaction, de mauvais vieillissement entre le vernis et le métal. Ici, la perruche. On constate qu'à plusieurs endroits, le vernis, en fait, là, vous voyez, a une teinte beaucoup plus sombre et qu'en dessous, le fer sous-jacent se corrodait. Ce vernis était de plus sensible à des solvants de type alcool, éthanol, et nous avons supposé qu'il pouvait s'agir de vernis type gommelac ou autre, et qui là, en s'acidifiant, aurait entraîné la corrosion du fer sous-jacent qui donne cette teinte marron là dans le creux, et à d'autres endroits, le vernis a carrément disparu, mettant en évidence un métal corrodé. Sinon, pour ce qui est des problèmes d'interaction entre la peinture et le métal, il y en avait relativement peu. Sur tous les endroits où la peinture avait sauté, en fait, le métal en dessous paraissait sain. Disons qu'il n'y avait pas de traces de corrosion réactivée, comme on l'appelle vulgairement pour le fer, où on a des apparitions de produits de corrosion, brins, des gouttelettes, des choses assez caractéristiques. Néanmoins, ici, vous voyez, c'est un des rares cas où là, on voit que des produits de corrosion du fer ont migré au travers de la couche peinte. Mais sur toutes ces autres zones, ici, là, et sur la majorité des autres objets, nous n'avons pas pu mettre en évidence clairement une corrosion du métal liée à la couche de peinture. Quelques problèmes de corrosion par bimétallisme, notamment au niveau des soudures. Là, sur l'autruche, on ne voit pas très bien, je suis désolée. Il y avait une soudure qui avait été reprise puisque le mécanisme en dessous n'était plus en place. Et autour de la soudure, là, on avait des problèmes de corrosion. Ici, juste un détail, ici, vous voyez en dessous, là, une légère corrosion des métaux. C'est la peinture noire qui est ici, qui est de nature légèrement différente de celle que l'on pouvait voir pour recouvrant d'autres jouets. Là, on avait assez souvent des problèmes de corrosion du métal, mais essentiellement sur ce jouet-là. Pour ce qui est des parties organiques, ce sont essentiellement les revêtements peints qui ont le plus souffert. Alors même si ces objets ont été repeints, comme je vous le montrerai tout à l'heure, mais pour les jouets qui semblent présenter une peinture originelle, on a un problème de fragmentation généralisée de cette couche peinte. Là, vous en avez un exemple sur la partie rouge, où si on regarde de près, on a à la fois un problème de décoloration et de fragmentation à cœur de cette couche, où on a un réseau de micro-fissures absolument généralisé qui fait que la peinture ne tient quasiment plus sur le substrat métallique, sans pour cela avoir de problèmes visibles au niveau du métal lui-même. Un problème de transformation colorée, particulièrement visible pour les bleus et surtout les rouges, où en fait la couche superficielle a cette couche presque rose, alors que quand on regarde au niveau des tranches, on le devine ici, on a affaire à un rouge beaucoup plus carmin. Donc un problème assez complexe au niveau de l'altération de ces peintures, sur lequel il serait peut-être intéressant de se pencher, mais ce n'était pas le possible dans le cadre de l'intervention. Des problèmes de décoloration au niveau de la feutrine là, sur le gendarme, où là on a affaire à sans doute le vêtement est d'origine, je pense. Enfin, donc là, des décolorations généralisées, des déchirures et pour ce qui est des textiles assez cassants pour certains. Ces jouets étaient donc des jouets entretenus. On a plusieurs types d'interventions. Là, sur le petit pêcheur, il a été entièrement repeint. On ne sait pas quand, mais en tout cas, cette couche-là a été visiblement refaite avant son entrée au musée. Ici, donc là, au niveau des assemblages, on a pu constater sur certains des soudures secondaires qui semblent être liées à l'utilisation de l'objet. Là, certains de ces textiles-là ont été complètement refaits. Et pour ce qui est de la peinture, dans d'autres cas, on a vu aussi des réintégrations, mais moins poussées que celles-là, où on avait simplement des remises en teinte du fond, sans forcément remise à niveau de manière illusionniste de la couche peinte. Alors les fonctions de ces objets, on y a réfléchi un petit peu avec Anne-Laure, justement dans le cadre de l'intervention. Bien entendu l'usage, hein, c'est le jeu qui est la fonction, je dirais, la plus importante de ces jouets. Mais aussi tout ce côté de technologie et de recherche, hein, par le biais de tous les brevets qu'avait déposé M. Martin. Et puis cette volonté, je dirais, d'exposer certains jouets ouverts en deux pour montrer le mécanisme, qui est quand même révélateur d'une certaine volonté de cet inventeur pour montrer un petit peu tout le support technique de ces jouets. Et ça, c'est un élément qui, à mon avis, très important pour cette catégorie de jouets. Et puis, bien entendu, l'esthétique. Hein, quand on voit le shérif là, avec toutes ces bandes colorées, il est clair que l'aspect extérieur de ces jouets ont une grande importance, et bien entendu, toutes les phases d'entretien et de repeint que l'on a pu voir aussi sur ces jouets. Donc, quelles étaient nos possibilités d'intervention? Pour le cadre de l'exposition, à cause du temps qui nous était imparti, et puis, je dirais, suite aux conclusions que l'on a eues, nous n'avons fait que des phases, je dirais, de conservation et de stabilisation de ces objets. Donc, stabilisation des couches peintes par imprégnation de résine acrylique dans du paraloïde B67 dans du cyclohexane, puisque toutes les couches peintes étaient sensibles à la fois à des solvants cétoniques et des solvants alcooliques. Donc, cela limitait quelque peu les possibilités d'intervention. Donc consolidation des couches peintes, après bien entendu un nettoyage. Ce nettoyage en fait a permis d'éliminer les dépôts gras et de poussière qu'il y avait sur ces jouets. Notamment, c'était notamment visible sur les couches blanches, jaunes et rouges de certains des revêtements. Et la peinture en s'altérant devenait relativement quelque peu collante à la surface, et il nous semblait important d'éliminer justement tous ces dépôts, puisque à terme ils continueraient de s'imprégner dans la couche. Et là, le matériau que nous avons utilisé pour le nettoyage, c'est de la salive synthétique dans de l'eau déminéralisée. Et puis rinçage après, puisque ces couches peintes étaient sensibles à toute trace de solvant. Dès qu'on essayait de les éliminer un petit peu mécaniquement en brossant, la couche peinte qui n'avait plus aucune adhérence sur le métal se soulevait. Donc là, un exemple de la course de taureau, où là on n'avait plus que le taureau et le toréador, et donc il n'était pas question de les présenter comme ça. À l'époque, nous n'avions pas d'indication précise sur le mode de présentation, si ce n'est qu'il y avait juste ici et de l'autre côté un élément sur lequel s'inséraient visiblement des tiges métalliques pour les permettre de tenir debout. Donc nous avons fait une option à minima de soclage, présentation, où on a remis une tige, collée bien entendu de manière réversible, pour qu'au moins les deux protagonistes puissent être visibles verticalement et qu'ils tiennent, puisqu'ils ne tenaient pas debout de par leur propre poids et leur propre statique. D'autres possibilités pourraient tout à fait être envisagées au regard de ces jouets, où encore une fois la fonction technique et la mise en mouvement sont quand même des éléments fondamentaux. On pourrait envisager une mise en état de mouvement, c'est-à-dire simplement, les mécanismes, je n'en ai peut-être pas assez parlé, sont dans un relatif bon état. On constatait très peu, sur les mécanismes qui étaient visibles, de problèmes d'altération des métaux, et donc on pourrait tout à fait envisager que, quelques lubrifiants pour permettre ces mécanismes de tourner, de les remettre en mouvement, pas forcément pour les remettre en état de fonctionnement, mais qu'au moins on puisse bien comprendre comment ces rouages s'actionnaient les uns par rapport aux autres, pour justement restituer un petit peu tout cet intérêt, tout le côté technologique de ces jouets. une mise en état de fonctionnement pourrait être envisagée pour certains qui sont en bon état, où les couches de peinture ne posent pas de problème d'adhérence sur le substrat métallique, où les mécanismes sont accessibles pour que l'on puisse vérifier de leur bonne conservation et agir avec quelques lubrifiants pour permettre une remise en mouvement sans danger, pour par exemple, dans le cadre d'une campagne de photographique ou autre chose, pour filmer ce jouet en train de fonctionner l'espace de quelques minutes. Après, ces éléments peuvent être des compléments pour la muséographie, pour présenter ces jouets, et après, je dirais, ne plus les refaire fonctionner. Donc je pense que des possibilités peuvent être assez variées pour ces jouets, et pour justement pour que le public puisse profiter au mieux de tout leur intérêt, de leur ingéniosité.
Les jouets ont, Marianne a parlé des repeints, donc ils ont dû être effectués dans leur vie au musée, je dirais, et pas, puisqu'ils sont rentrés en 1908. Ces jouets ont été mis en fonctionnement. Peut-être certains d'entre vous les ont vus fonctionner dans le musée jusqu'en 2000. Et ils ont également été filmés pour ceux qui étaient encore en état de fonctionnement, puisqu'il y a, dans le théâtre des automates, il y a, outre ce spectacle trois fois par mois, il y a également un film qui présente un certain nombre des automates en mouvement et qui doit être mis en route à la demande des visiteurs.